Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Axel Mauger, écrivain, essayiste, analyste du français dans le monde, nous présente dans cette émission d'une série de trois les grandes figures des francophiles américains. Dans cette première partie, Axel Mauger pose la question suivante. La langue française a-t-elle encore une place quelconque aux États-Unis? Écoutons la réponse argumentée d'Axel Mauger.
Ne l'oublions pas, il y a une relation entre la France et les États-Unis qui est complexe, qui est riche, beaucoup plus riche que certains le croient. Et bien entendu, comme dans une relation amoureuse, comme dans une relation maritale, l'amour peut être parfois proche de la haine. On l'a vu notamment lors des événements tragiques qui ont suivi le 11 septembre 2001. Alors, les blessures amoureuses, comme on le sait, sont parfois dures à cautériser. Alors, depuis plus de 50 ans, aux États-Unis comme ailleurs, dans le monde, certaines personnes se demandent pourquoi continuer à apprendre le français. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Pourquoi continuer à apprendre le français? Eh bien, je vais essayer d'y répondre, tout au moins dans nos relations avec les États-Unis. Constatons que 50 ans après, en dépit des hauts et des bas, l'on continue à apprendre le français pour des raisons multiples. 50 ans après avoir posé évidemment cette question, pourquoi continuer à apprendre le français, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, il va sans dire. En dépit des sarcasmes, aujourd'hui aux États-Unis, en 2007, on remarque tout de même que près d'un élève américain sur quatre, parmi ceux qui apprennent une langue étrangère, tous n'apprennent pas une langue étrangère, au collège et au lycée, plus près d'un élève sur quatre, je dis, choisit le français. Une langue parlée plus ou moins bien par à peu près 5% des habitants de la planète, ce qui n'est quand même pas négligeable. 5% des habitants de la planète, ça fait à peu près 300 millions de personnes, il va sans dire. Alors, parmi ces 300 millions de personnes, eh bien, le 1%, il y a 1%, je répète ce chiffre qui est quand même très intéressant, je le donne, 1% ce sont des Français qui parlent évidemment leur langue et 4% ce sont des francophones ou des francophiles, etc. Donc, vous voyez, le 1% français plus le 4% francophone-francophile, ça te fait donc 5% et à peu près 300 millions d'habitants de la planète qui parlent le français, plus ou moins bien, il va sans dire, mais qui le parlent. Par contraste, 1% des... Alors, je donne un autre chiffre pour montrer quand même le décalage, même si je parle maintenant juste une seconde de la Chine, ce poids énorme de la Chine, mais par contraste, 1% des adolescents de la planète étudient le chinois. Donc, c'est encore faible, c'est déjà pas mal, mais c'est en forte progression. Donc, 1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60 millions d'étudiants apprennent, de jeunes étudiants apprennent le chinois. Donc, c'est quand même considérable par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans. Ou le japonais, qui ensemble représente 20% pourtant de la population du monde. Donc, vous voyez comme assez rapidement, la situation est en train d'évoluer, de changer. La carte mondiale des langues est en train donc d'évoluer. Alors, le français occupe donc une position encore enviable aux États-Unis. Apprendre le français reste quelque chose de très agréable pour accéder à un univers culturel de premier plan. Et en fait, c'est là la réalité. Pourquoi le français, c'est une des premières réponses à notre question initiale. Pourquoi le français intéresse-t-il autant de monde? C'est parce que il offre un univers de qualité tout à fait remarquable. Pour accéder à une culture forte, le français est une nécessité, comme l'anglais est une nécessité dans le domaine économique. Donc on le voit, le français qui n'a peut-être pas, qui n'occupe pas évidemment le premier plan dans le domaine économique, l'occupe toujours, d'une certaine façon, dans le domaine culturel. Une première réponse de cet engouement pour le français, la revue. Par exemple, on la trouve aux États-Unis, une autre réponse à cet engouement pour le français, c'est la revue créée par le professeur Roger Célestin, on reconnaît que le nom est d'origine haïtienne, qui enseigne à l'université du Connecticut. Et elle s'intitule, cette revue importante, intéressante, tout à fait contemporaine, donc de 2007, Contemporary French and Francophone Studies, c'est-à-dire, donc vous traduisez français contemporain et études francophones contemporaines contemporains. Alors, elle accueille des articles de grands intellectuels français, cette revue, français, francophone et américain. On y apprend beaucoup et on découvre des auteurs de talent souvent fort peu connus. Alors, ce qui est quand même très intéressant à notre époque, c'est de constater qu'ici et là, de très nombreux auteurs francophones ne sont pas toujours connus en France même, voire même dans d'autres pays francophones. Donc, il y a une pépinière extrêmement intéressante dans le monde entier. Ce qui intéresse ces jeunes étudiants américains, c'est autant, en fait, si on regarde vraiment ce qui se passe dans les départements de français des universités américaines, ces étudiants américains s'intéressent autant à la culture élitiste que populaire. Au programme, on trouve alors la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire la France moderne, surtout de 1945 à aujourd'hui, le cinéma français avec notamment un grand clin d'œil à la Nouvelle Vague ou même des auteurs plus récents comme Luc Besson, pour ne citer que lui, la musique est aussi... Alors, ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est de constater que la musique de France, venue de France, est à la pointe. Donc, elle est très, très appréciée aux États-Unis. Alors, autre élément très apprécié aux États-Unis, l'art de vivre plaît comme aussi les études féministes. Alors ça, c'est vrai que les études féministes avec des exemples venus de France, ces exemples venus de France plaisent énormément aux Américains, aux Américaines, peut-être plus là-bas aux États-Unis qu'en France même. Alors c'est un phénomène qui est quand même assez... ça explique la réalité de la société américaine où il y a ce désir, cette volonté parfois un peu exacerbée d'égalité des sexes, etc. À New York, précisons aussi qu'un journal très intéressant défend le français. Il s'agit de l'hebdomadaire France-Amérique, fondé en 1943 par des journalistes relativement proches de De Gaulle et qui continue de faire connaître la civilisation française et à permettre une certaine confrontation, les deux univers parfois proches, souvent si distincts. Et donc, France-Amérique nous offre des articles extrêmement intéressants sur l'Amérique en français, bien entendu présente aux Américains francophiles de très nombreuses informations sur la France. Et pour les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage, il y a bien entendu un courriel à retenir, www.france-amérique.com. Donc je répète, www.france-amérique.com. Alors dans les villes américaines, il va sans dire que le fait français et la francophonie existent bien en 2007. On le remarque surtout en regardant les enseignes des restaurants. Il y a de très nombreux restaurants français aux États-Unis. Je ne sais pas le nom, mais il doit être considérable. Les magasins chics, là, ils pullulent. De San Francisco, bien entendu, à New York. Les librairies, dans un certain nombre de librairies, on retrouve des ouvrages en français et surtout en anglais, mais des ouvrages traduits donc du français vers l'anglais. Et alors les musées, dans les musées, j'en reparlerai un moment tout à l'heure, vous avez un nombre considérable d'œuvres d'origine française, il va sans dire. Dans les domaines de pointe, la France jouit d'une haute estime chez de nombreux chercheurs formés dans le cadre de la coopération. Et il y a le nom d'un monsieur très connu qui s'appelle Stephen Ridgway, qui est un physicien de Tucson. Et ce physicien a profité d'un stage en France dans le domaine de l'optique adaptative. Alors, demandez à nos jeunes étudiants français s'ils savent que les Français sont à la pointe du progrès dans le domaine de l'optique adaptative. Et donc, c'est un point fort parmi d'autres de notre pays, et ce n'est pas le dernier, ce n'est pas le seul, bien entendu. La France est aussi au premier rang en ce qui concerne la télescopie, comme le raconte, d'ailleurs, dans un très bon livre de Geneviève et Philippe Joutard, qui s'appelle « De la francophilie en Amérique », publié aux éditions Actes Sud. Eh bien, dans ce livre, nous apprenons que ce même Stephen Ridgway, qui est venu au moins une quarantaine de fois en France, eh bien, se passionne pour notre pays et leurs deux enfants, les deux enfants de monsieur et madame Ridgway, parlent très bien notre langue. Donc, on voit qu'il y a un peu partout aux États-Unis des noyaux, voire des cellules qui se développent où le français est accueilli, apprécié un peu partout. Alors, existons-nous encore aux États-Unis aujourd'hui, pour reprendre le titre de cette première émission ? sur les francophiles américains, eh bien, c'est presque un peu ridicule de poser la question à ceux qui connaissent, bien entendu, la situation des francophiles américains. Mais évidemment, tout le monde ne connaît pas la situation des francophiles américains. Il suffit d'examiner tout à fait récemment l'un des grands best-sellers mondiaux qui s'appelle le Da Vinci Code, même si, il faut bien le reconnaître, c'est pas souvent très loufoque comme livre, eh bien, il entraîne tout de même ce Dan Vinci Code, au moins les lecteurs, il les entraîne vers 5 destinations différentes, je pense à Londres, l'Écosse, New York, Rome et Paris. Alors, existons-nous encore aux États-Unis aujourd'hui ? Quelle question vraiment, quand on connaît un petit peu la situation du français aux États-Unis et celle des francophiles américains, on ne saurait en douter. Il suffit d'examiner l'un des grands best-sellers mondiaux, le Da Vinci Code, qui, il faut bien le reconnaître, est un peu loufoque par certains côtés, même tout à fait loufoque, mais qui entraîne le lecteur vers 5 destinations différentes, Londres, l'Écosse, New York, Rome et Paris. Mais de toutes les destinations montré par, bien entendu, Da Vinci Code, c'est Paris qui l'emporte largement. Et nous avons, via l'hôtel Ritz, le Louvre, bien entendu, l'hôtel Ritz, ne l'oublions pas, est un lieu fétiche des Américains, le Louvre, je viens de le dire, le bois de Boulogne, Saint-Sulpice, alors, oh mon Dieu, si on a parlé de Saint-Sulpice depuis l'apparition du Da Vinci Code, et bien entendu, et un château imprévu aussi, qui se veut à Petit Versailles, le château de la Villette. Donc, une lecture détaillée du livre montre combien les Français et la France sont au centre de l'intrigue. Le héros, vous en souvenez, Robert Langdon, est un Américain à Paris qui rencontre sa Française, je dis bien sa Française, la ravissante Sophie Neveu, descendante du dernier grand maître du prieuré de Sion. Le succès de ce livre est tel qu'il encourage un tourisme en forme de jeu de rôle. Alors c'est vrai que depuis l'apparition du livre de Dan Brown, si vous voulez, les touristes américains, voire d'autres pays, parce que le livre a été traduit de très nombreuses langues, se précipitent à Paris, au Louvre et à Saint-Sulpice, où même le curé a dû mettre un écriteau disant que tout ce qui était relaté dans le livre de Dan Brown était souvent tout à fait de l'illusion, non pas d'optique, mais d'illusion. Précisons encore que les 5 derniers, dans le livre toujours, les 5 derniers grands maîtres du prieuré de Sion sont français. Et je donne le nom de ces personnes qui, évidemment, occupaient au XIXe siècle pour la plupart, ou au XXe siècle pour les dernières, ou la dernière, un rôle quand même considérable. Je pense à Charles Nodier, Victor Hugo, soi-disant qui aurait été grand maître du prieuré de Sion, Claude Debussy, et même Jean Cocteau, personnage, il faut le dire, XXe siècle, personnage tout à fait intéressant, étonnant, éclectique. Et alors, dans le livre, le nom de ce monsieur Jacques Saunière, le dernier grand maître du prieuré de Sion, qui, bien entendu, est assassiné, le conservateur du Louvre, entre guillemets, est assassiné de façon tout à fait étonnante, bien entendu, dans cet ancien palais royal. Et tout à l'avenant, la terre d'adoption, encore dans le livre. Donc, vous voyez, comme la France est peut-être flattée d'être aussi importante dans le monde, il faut dire sa géographie et son histoire sont considérables, la terre d'adoption du Graal, c'est la France. Alors, la question qu'on peut se poser, Dan Brown serait-il un grand francophile ? Eh bien, je n'en sais rien, ne connaissant pas le personnage, je ne sais même pas s'il parle un français agréable, je n'en sais rien. Il a surtout compris qu'au début du XXIe siècle, Paris et la France étaient une valeur sûre. Donc, dès qu'on parle de Paris, de la France, de la Tour Eiffel, du Louvre, du Palais Royal, de l'Opéra, évidemment, l'Opéra avec le plafond de Chagall, ne l'oublions pas, c'est une véritable fascination, bien sûr, pour les Américains francophiles ou même francophones. Il est connu que dans plusieurs grandes villes américaines, le français donc est à l'honneur. L'exemple numéro un, c'est New York. Il suffit d'aller dans la librairie à New York, Barnes et Noble, situé au 1723 de l'avenue Murray, voyez comme je suis précis, pour constater que dans la collection de poche « Great Literature That Fits in Your Pocket », je traduis « La grande littérature qui tient dans votre poche » et dont l'édition date de 2003-2004, donc ça ne date pas du 19e siècle, 58 ouvrages sont présentés. tous en anglais bien sûr. Sur ce nombre, 13 ouvrages n'appartiennent pas à la littérature anglo-saxonne. Donc, évidemment, c'est une collection anglo-saxonne, elle se taille la part du lion, c'est normal, ça s'adresse aux anglophones, mais on retient que parmi les 58 ouvrages, vous avez 13 qui offrent des livres venus de l'étranger, etc. Et sur les 13 étrangers qui figurent dans cette liste, eh bien, nous avons 5 romans français. Donc 5 sur 13, ce n'est pas si mal. Ça veut dire que ça laisse 7 ouvrages au reste du monde. Donc la France se taille, j'ose pas dire une part de lion, mais une part non négligeable. Alors sur les 5 romans français retenus, eh bien, vous en avez 2 d'Alexandre Dumas. Le Bon Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires. Donc des livres, il faut dire, tout à fait emballants, enthousiasmants, etc. Gustave Flaubert, avec Madame Bovary, bien entendu, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les dames ou ce que les dames doivent faire ou ne pas faire avec les hommes. Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame, donc très à l'honneur, vous voyez Notre-Dame à côté des grands autres monuments de Paris. Et Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra. Donc vous voyez, encore une fois, là, la scène, j'ose pas dire liturgique française, mais presque est là. Encore une fois, le Paris et la France de toujours sont au rendez-vous. Dans le réseau scolaire, alors qu'en est-il, si vous voulez, dans le réseau scolaire du français aux États-Unis? Eh bien, la culture française s'épanouit aux États-Unis dans une trentaine d'établissements, environ, surtout sur les façades est et ouest, sans oublier le sud. Le centre est nettement moins garni, du moins apparemment. Alors, je parle évidemment d'une trentaine d'établissements gérés par la France. Donc, ce n'est pas l'Alliance française forcément, ce sont des établissements gérés par la France. Le plus connu d'entre eux s'appelle le lycée français de New York. Il donne aux élèves une double culture, ce qui leur permet d'entrer à Princeton ou Harvard, comme à Louis le Grand ou Henri IV. Donc, vous voyez, vous passez par le lycée français de New York, donc un très beau lycée, et vous pouvez aussi bien fonctionner en anglo-américain qu'en français. Donc, c'est un plus, un avantage pour les garçons et les filles qui passent par ces établissements. Un autre établissement totalement privé, celui-là, donc qui s'appelle East Hampton, est fascinant tant il se distingue par sa recherche pédagogique, sa connaissance de l'enfant. Il s'intéresse surtout aux enfants et surtout son ouverture sur le monde et de façon récente sur la France. Donc, jusque-là, ce collège qui n'est pas lié, qui n'était pas lié, je crois, aux services officiels français, s'intéressait tout de même aux questions de l'enfant et notamment à la France. Après le lycée, ceux qui aiment notre langue n'ont que l'embarras du choix, tant les sections de français foisonnent dans les universités, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission sur les francophiles américains. Émission, je vous le rappelle, que vous pouvez parfaitement télécharger dans notre médiathèque.